Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Stanislas de Barbérac. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 1984. Et je suis ténor.
Est-ce qu'il y a des chanteurs vivants ou morts, mais qui vont pour vous être des espèces de guides, en tout cas, voilà, des modèles.
Alors non, je suis pas trop comme ça. J'ai des références évidemment, hein, j'écoute évidemment des chanteurs, mais en tout cas, ça ne me sert pas de guide dans le sens où j'ai pas envie d'imiter quoi que ce soit, ou dans le sens où je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un, pas du tout. J'adore écouter des bribes de chanteurs à tel endroit d'un air, par exemple, en me disant « Ouah, Vickers, là, quand il chante ce Purcell, on s'y attendait pas du tout. Il a chanté un Purcell comme ça. C'était dingue, c'était hors du temps, et avec sa patte à lui. » Et ça, j'adore découvrir des trucs comme ça, ou Laurie Volpi, ou des vieux chanteurs, ou des gens, Giacomini, tu vois, des trucs un peu polissés, mais tellement animal dans la façon de chanter. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime découvrir. Ça me sert pas de guide en disant, ah oui, il a eu une telle carrière, il a évolué comme ça, il a chanté ça, puis ça, puis ça, donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Moi, je suis mon instinct aussi. Parfois, ça joue des tours. C'est plutôt dans ce sens-là que j'aime écouter des chanteurs, des références. Pas pour piquer des idées, mais pour écouter des façons de faire.
C'est intéressant ce que vous dites, il a chanté ça et puis après ça, ça, ça. C'est vrai qu'il y a des chanteurs comme ça qui trouvent un artiste, une voix. Ils sentent des parentés évidentes avec la leur et ça leur permet, dans cet exercice si difficile de se projeter à plusieurs années, de se dire, bah, si lui a chanté ça et après ça, comme je pense que ma voix est un peu similaire, je pourrais... Vous avez pas comme ça une figure sur laquelle vous pouvez peut-être vous reposer ou peut-être qui, avec les années maintenant, 20 ans plus tard, vous pouvez vous dire, ça me conforte?
J'ai envie de répondre en disant que moi, je sais pas quelle est vraiment ma voix, en fait. J'ai jamais trop compris quelle était ce que me faisaient mes cordes vocales, quoi. J'ai toujours à dire, ah ouais, tiens, là, je peux chanter Tamino. Ah ouais, tiens, là, je peux chanter Traviata. Ah ouais, tiens, je peux chanter Freischütz, par exemple. Ah ouais, tiens, j'ai essayé mon premier Zygmunt, ça marche. Après, c'est vrai que si on regarde des Gustav Winberg, par exemple, ou peut-être Jon Vickers, ou ce type de voix-là, je m'identifie plus, c'est sûr. À un moment donné, quand je chantais Mozart, j'écoutais énormément Fritz Wunderlich, on n'avait pas du tout la même voix, mais cette qualité de voix, cette façon d'aborder la musicalité, etc., je m'identifiais aussi, mais... Quelle prétention j'aurais à me dire, tiens, je ressemble à lui, je ressemble à... Parce qu'en fait, je m'entends en personne. C'est pas non plus de la prétention de dire que je suis unique. Après, c'est vrai qu'il y a des voix qui sont plus catégorisables. Moi, non. Je trouve pas quelle est vraiment l'essence même de ma couleur vocale. Parce qu'elle évolue très vite.
Donc, ça vous demande de la réinventer sans cesse.
De la comprendre, surtout. D'écouter. De prendre le temps. De savoir que... Je pourrais toujours chanter Tamino, par exemple. Je sais que je pourrais le faire. Mais j'ai fait le tour. Et je me dis, j'ai pas envie de faire juste de l'alimentaire, quoi. Donc je me suis dit à un moment donné, oh, je commence un peu à m'ennuyer, là. C'est pas bon. Voilà. Donc je préfère laisser ce rôle de côté, par exemple.
Ça, c'est des grandes
pages. Ouais, c'est des grandes pages qui se tournent.
Hein. Ouais.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que ça a été une partie de ma vie, quand même.
Ça a été une sorte de rôle signature aussi.
Bien sûr. Ouais. Non, c'est pas rien. Hein. Je dis pas que ça a été fait d'un revers de main. Mais il faut savoir prendre ce genre de décision aussi. On est toujours sur le fil. J'ai toujours cette sensation-là, en tout cas, même aujourd'hui. De se dire, ah tiens, là j'étais bien, là j'étais à côté, pourquoi ? Alors qu'il n'y a aucun signe dans la partition qui fait que je me sens à côté ou que j'aurais dû passer à travers facilement. Ou... C'est tellement lié aussi à sa vie, le chant, à ce qui se passe dans sa vie perso, autour de soi, au manque de quelque chose, manque de sa famille, d'être loin, de se dire « ah ouais, bon ». Et en même temps, ça fait partie de la vie d'avoir des rôles qui se passent pas bien. Il faut aussi le digérer comme ça et se dire « c'est pas grave, c'est peut-être pas à cause de moi, c'est juste une passade, il faut passer à travers ». C'est énormément de questions comme ça. Donc ouais, parfois, on a besoin de prendre le large, quoi. Et ça fait du bien.
Alors, vous allez avoir cette première expérience comme ça de chanteur qui se dessine, finalement un avenir possible aussi et là, très clairement, vous le sentez dans l'écoute des autres. Vous allez essayer évidemment de vous jauger un peu par rapport à d'autres. Donc là, il y a des concours qu'on passe. Ouais. Ça aide, j'imagine, à savoir un petit peu où est-ce qu'on se place. Et puis, l'entrée en 2008 à l'Atelier Lyrique de l'Opéra National de Paris, où là... Ben voilà, on est un peu dans le sein des saints, ouais. Directement dans le grand bain. Qu'est-ce que vous allez découvrir lors de cette expérience 2008-2012, je crois, à peu près
Alors, 2000... l'Opéra de Paris 2008-2010, purement la scolarisation, on va dire, à l'Opéra de Paris. Ça a duré 2 ans pour moi. Mais avant ça, voilà, il y a eu le conservatoire, très court, j'ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai eu une année, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai fait beaucoup de chœurs supplémentaires. À Bordeaux, à Toulouse, à Radio France et à l'Opéra de Paris où j'ai passé 9 mois. Il y avait un statut de choriste supplémentaire permanent à l'époque. Donc j'ai fait 3-4 prods d'affilée à l'Opéra National de Paris.
Et ça, vous avez aimé alors,
j'ai
cette expérience-là ?
J'ai adoré mes expériences de chœur parce que je ne connaissais pas du tout l'expérience d'un plateau lyrique, quoi. Donc j'ai appris à voir comment travailler un chef avec la fosse, un chef avec le plateau, un metteur en scène, les répétitions, les solistes, comment ils gèrent, etc. J'ai énormément regardé, énormément écouté, et ça m'a beaucoup servi.
Et vous avez commencé à gagner votre vie.
Et j'ai été indépendant surtout, c'est vrai, intermittent, c'était quand même un soulagement pour moi, pour mes parents, j'étais indépendant, quoi. Je gagnais ma vie, et c'était très riche d'enseignement cette année-là. C'est comme ça aussi qu'est né un peu l'avenir à l'Opéra de Paris, parce qu'en fait, quand j'ai auditionné pour les chœurs, c'était un concours pour être choriste titulaire à l'Opéra de Paris. Je n'en avais aucune idée. Moi, j'étais persuadé que c'était un truc pour écouter des voix, et si on a besoin d'un ténor, on vous appelle pour être supplémentaire, quoi. Et moi, je me suis retrouvé en finale, ténor 2, sur le plateau de Bastille, à 25 ans, alors que j'avais zéro expérience, et il y avait Gérard Mortier... à l'époque, était là, avec Alexander Neff, qui était dans le jury. Il y avait Christian Schirm.
Directeur de l'Atelier Lyrique.
Et j'étais là. Et j'ai passé mon concours. Et à la fin de mon passage, le régisseur de plateau est venu me voir. Monsieur Mortier voudrait vous voir. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et en fait, j'avais appris que c'était une place de choriste titulaire après mon passage. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être salarié de l'Opéra de Paris. Enfin, c'était pas mon ambition du tout. J'avais 25 ans, je voulais être là de temps en temps, éventuellement, s'ils avaient besoin de quelqu'un. Pas du tout que je dénigrais le poste, hein, mais j'étais pas là pour ça, en fait. Donc, je me suis dit, mais merde, dans quoi je me suis embarqué s'ils me prennent et tout? Qu'est-ce que, faut que je change de vie, faut que je déménage? Enfin, c'était la panique. Et en fait, j'ai un Mortier, j'ai eu un entretien avec lui, très court, très amical, très sympathique. Il m'a dit, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Mais pourquoi vous voulez rentrer dans un chœur? Vous avez 25 ans. Je dis, mais je suis désolé, en fait, je veux pas du tout rentrer dans le chœur. Je pensais que c'était pour être supplémentaire, donc je suis navré. J'espère que j'ai pris la place de personne en finale ou quoi. Je veux pas du tout être titulaire, quoi. Il dit, non, mais d'accord, je comprends, il n'y a aucun problème. Mais vous savez qu'on a un atelier lyrique. Mais moi, je connaissais pas trop tous ces trucs. Je débarquais de ma province, quoi. Oui, d'accord, super, on forme des jeunes solistes, d'accord, mais bon, là, c'est trop tard, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, bah, moi, j'ai pas d'expérience, et donc, ils m'ont proposé d'être à l'Opéra de Paris pendant un an, dans les chœurs, comme ça, en tant que supplémentaire, pour préparer mon concours.
C'est génial.
Voilà.
Ah oui, parce que Gérard Mortier, il arrive en 2004, et il n'y avait pas, en 2009, donc en effet, vous vous êtes arrivé à l'atelier lyrique en 2008, mais avant, donc 2007, donc vous avez eu quand même quelques années de grandes productions.
Ah, mais c'était incroyable.
Ça forme l'oreille, ça forme l'œil.
Et en même temps, j'ai fait des trucs concerts avec Radio France, parce que j'ai présenté le concours. Là, je savais que c'était pour des supplémentaires, parce que le concours Radio France, il est costaud. Donc, j'ai eu une année et demie à Paris de dingue, parce que j'ai fait Lohengrin avec Gergiev, j'ai fait Louise de Charpentier, qui était une production de dingue, j'ai fait Traviata de Marthaler à Garnier, avec Jonas Kaufmann, que personne connaissait. C'était ouf. J'ai fait tout ça, j'étais comme un gamin, quoi. Je jouais au baby-foot avec Jonas Kaufmann à l'entracte, quoi. Et donc, j'ai commencé mon métier comme ça. Et après, j'ai présenté le concours et j'ai été pris à l'Opéra de Paris. Et voilà. Et 2 ans après, j'étais en carrière. Donc, avec 5 ans de chant, j'étais en carrière. J'ai commencé ma carrière. Donc, c'est allé vite.
Musique, les grands entretiens de Stanislas de Barbeyrac.
Parlons de ce que vous recevez comme enseignement à l'atelier lyrique, parce que c'est à la fois l'enseignement d'être dans un lieu exceptionnel où on profite de l'expérience de pouvoir écouter les plus grands, et en même temps une école.
Vertigineux l'expérience quand même. La première année pour moi, c'était parce que j'avais eu l'expérience des chœurs dans la maison, donc je connaissais bien la boutique, comme on l'appelle. Et là, on est dans un process d'étudiant professionnalisant, donc c'était quand même différent. Et la première année, moi, j'ai pas fait grand-chose de tout ce qui était projet, etc. Ils m'avaient pas pris aussi, et quelque part, j'étais content, ils m'avaient pas pris pour faire les projets de l'atelier lyrique, parce que je rentrais pas dans les cases, et qu'ils avaient un répertoire qui me correspondait pas, et que j'étais pas prévu, voilà, parce que l'atelier lyrique, il reste des gens de l'année précédente, ou de l'année encore précédente, donc voilà, souvent, on est un peu là, et puis on attend, quoi. Donc la première année, j'étais beaucoup tout seul, en coaching avec des pianistes, apprendre du répertoire, etc. J'ai fait très peu de concerts.
Mais on travaille un peu dans le vide, alors.
Et en fait, pas tellement, parce que moi, j'en ai profité pour aller écouter, parce que j'étais encore à la bourre sur ma culture du monde de l'opéra. Donc, je me glissais en répète, j'allais voir des pros, quoi. Il y avait quand même des grands noms. Hein. Il y en a toujours, mais il y avait quand même beaucoup de grands noms qui répétaient partout dans Bastille. Donc, je suis allé écouter plein de spectacles, mais j'ai pas beaucoup pratiqué, ça, c'est sûr. Et en revanche, la deuxième année, j'en ai beaucoup fait. On a fait beaucoup de concerts, j'ai fait 2 productions lyriques, moi, avec eux. Et j'ai commencé mes premières expériences de remplacement, de jumper en répète parce qu'il y a un chanteur qui est malade, de faire des doublures, de faire des spectacles de la grande maison avec des petits rôles. C'était intense. Et c'est vrai que moi qui arrivais de Opéra Bastide, Bastide, il y a un gap, quoi. Et j'ai appris mon métier.
Il y a un gap théâtral aussi, c'est-à-dire que là, j'imagine qu'Opéra Bastide, vous étiez un peu vos propres metteurs en scène peut-être, mais je veux dire, là, tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des grands noms de la mise en scène, c'est André Engel, Varlikovsky, tous ces metteurs en scène qui sont là à cette période. Qu'est-ce que c'est comme découverte, quand vous dites qu'aujourd'hui, ce qui vous nourrit, c'est d'incarner un personnage, peut-être davantage que chanter, en fait, que le chant est une sorte de véhicule, mais que le but est plutôt d'incarner vraiment et de raconter une histoire. Cette rencontre avec le théâtre, est-ce que ça a été une révélation vocale? Est-ce que ça a accompagné une révélation vocale?
En tout cas, à l'atelier lyrique, j'ai vite compris, grâce aux cours de théâtre qu'on avait, d'expression corporelle, etc., j'ai vite compris que ça allait beaucoup m'aider, moi, à traverser ce métier, à traverser les années, et que j'avais hâte, justement, de découvrir ça chez moi, parce que moi, j'en avais jamais fait de théâtre. Je sais pas du tout ce que c'est. Cette désinhibition, j'en avais besoin pour mon chant. Donc, j'avais hâte de découvrir ça, et puis bon, bah, malgré tout, on se rend compte aussi des réalités du métier, qu'un metteur en scène, c'est assez rare qu'ils prennent du temps avec des petits rôles, qu'ils prennent du temps avec des petites choses, donc on fait partie d'un tout. Donc c'est un peu frustrant au départ, très frustrant même, parce qu'on se dit « Oh, j'ai tel metteur en scène, et puis en fait, il ne m'utilise pas beaucoup, et en fait, bah, finalement, à cause de mon rôle, je n'ai pas beaucoup à faire. » Donc il faut que je franchisse les étapes pour être là, devant, faire un rôle, et que j'ai des trucs à faire, quoi. Ça qui m'a motivé, en fait.
Pour que j'ai un rôle suffisant pour qu'on s'occupe de moi.
C'est ça dont j'avais envie. Vraiment. Et après, bah, dans la carrière, avec, bah, ça fait quoi, peut-être 2010, ça fait 14 ans que je chante en tant que soliste, que j'ai des rôles quand même plus ou moins importants. Bah, je les compte sur le doigt d'une main et demie, les gens qui m'ont donné à bouffer pour être quelqu'un, quoi. Et c'est ça qui est dommage.
Ceux qui vous ont essoré, si je puis dire.
Ouais.
Fait sortir de vous-même.
Mais ouais, parce que il y a aussi une part du métier, c'est la réalité, et en même temps, il faut passer à travers aussi, c'est comme ça. Il y a plein de métiers où on rencontre des gens intéressants, pas intéressants, il y a plein de gens qui ont dû me tourner boring. Voilà, c'est comme ça. Et d'autres qui m'ont trouvé peut-être passionnant, on peut pas plaire à tout le monde, et voilà. Mais c'est une part du métier, c'est une réalité, et ça, on l'apprend pas non plus, hein. C'est qu'à un moment donné, c'est un métier aussi. Ça peut pas juste être super, quoi. C'est pour ça que c'est très dur maintenant, quand je suis en prod et qu'on ne me nourrit pas, parce que c'est une reprise ou parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut regarder une vidéo et plutôt se mettre au bon endroit au bon moment parce qu'il y a une lumière qui est calée ou un truc vidéo qui est calé. Ça, j'ai du mal, quoi. Moi, vraiment, moi, mes plus beaux souvenirs, c'est quand il y a des mecs qui m'ont retourné, quoi. Qui m'ont dit, mais là, t'es nul, là, t'es incroyable. Mais on est là pour ça, en fait. Varlikovski, on aime ou on n'aime pas, mais moi, il m'a fait chialer en répète, quoi. Parce qu'il m'a montré l'exemple et le mec était bouleversant. Simon McBurney, il m'a fait chialer, quoi. Parce qu'il était dingue. Et c'est cette folie à la fois d'avoir un personnage en face de soi qui, mais en même temps, qui est hors du temps, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? Il s'est passé un truc, quoi. Vous êtes d'accord ou pas? Et puis les gens autour d'eux, ils sont bouche bée. Enfin, moi, je fais ce métier pour ça, en fait. Alors, ça peut pas être tout le temps ça, évidemment. C'est normal. Mais quand il se passe ça, je me dis, je suis au bon endroit. Ça vaut les sacrifices. Mais quand même, 60% du temps, je dirais que le rapport, c'est quand même, dans une saison, c'est quand même 60%, bon, ok, bon, on va le faire, et 40%, j'ai de la chance de faire ce métier, quoi.
Et est-ce que ça transforme aussi des choses dans le chant? C'est-à-dire que ces barrières qui tombent théâtralement, est-ce que vocalement aussi, elles permettent des couleurs qu'on n'avait pas soupçonnées, qu'on n'avait pas osées, pour reprendre un peu vos mots?
Bien sûr. Ça aide. C'est ça que j'adore, moi, quand j'ai des expériences théâtrales et musicales en même temps. Mais il faut que ce soit conduit par le théâtre, je crois. Parce que si on pense à l'inverse, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si on passe par le chant pour trouver un moment théâtral, il y a toujours le spectre de la technique qui est là et qui fait que ça inhibe un peu, je trouve. Mais quand on se laisse aller parce qu'on est allongé dans les bras de quelqu'un ou parce qu'on est en train d'effleurer les lèvres d'un homme... pour la première fois, alors que c'est pas ma sexualité ou l'inverse, ou avec une femme. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui... Oh, j'ai jamais vécu ça, quoi. Et en fait, c'est beau. En fait, on aime ce moment. Et c'est ça qui était beau dans Iphigénée, c'était aller jusque-là. La relation avec Oreste, avec Pylade, avec... C'était tout ça, quoi. C'était de se dire, bah ouais, je découvre des trucs... bah, c'est chouette, quoi. Mais c'est le théâtre qui me guide, c'est le personnage.
Et c'est ces 40% là qui donnent la foi pour les 60 autres.
Bien sûr. ce qui fait qu'on continue et qu'on se dit, bah, de toute façon, il va y avoir d'autres expériences comme ça, évidemment. Et puis, on sait où on peut puiser des choses intéressantes pour soi, parce que moi, je trouve que ce qui est important sur scène, c'est aussi de se faire plaisir quand même. C'est un art un peu égoïste et c'est ce que perçoivent les gens. Si je me fais plaisir, les gens vont trouver ça chouette. Si j'arrive.
Vous chantez au départ pour vous-même.
Ouais, moi, je chante pour moi. Hein. Ah non, mais vraiment. Hein, franchement, alors là, je dis sans aucun problème, quoi. Moi, je crois pas trop aux gens qui disent « Ah, j'arrive, je chante pour le public. » Moi, ça m'énerve un peu, ça. Parce que c'est pas vrai. Enfin, je crois pas. Moi, je passe des heures en cours de chant ou des heures ici, là, dans mon salon, à trouver des trucs. C'est pour moi, quoi, pour me dire « Là, je kiffe. Ça, c'est chouette. Ça m'abîme pas. C'est beau. » Alors, c'est beau pour moi, évidemment, hein, parce que je suis tout seul en face de moi-même. Mais je me fais plaisir, quoi. Parce qu'on cherche toujours des trucs et il y a tellement de fois où on rentre sur scène où on est à 50% parce qu'on a mal dormi, on a mal aux genoux, on a un début de laryngite et qu'on sait qu'on va pas pouvoir tout faire, que quand on kiffe quoi. Moi je sais que je chante pour moi d'abord. Si je chante pour moi et que je suis bien dans mes baskets, je pense que mon partenaire ou ma partenaire va le ressentir et c'est là où il y a un fluide quoi. Je pense que le public le ressent ça.
En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le public, vous en avez besoin.
Bah évidemment.
Les applaudissements quand vous dites la claque, elle est moins forte, là, elle est plus forte, etc.
Bien sûr, bien sûr. Mais quand on n'est pas bien, ben, y a pas de claque. Moi, je l'ai déjà expérimenté, ça. Quand on est à côté, quand on rentre, parce qu'on chante bien, hein, tout est là, mais en fait, on a un truc perso qui vous fait tout le temps penser sur scène à autre chose. Ça arrive de rentrer sur scène et d'être là physiquement, mais en fait, de pas être là. Enfin, ça arrive à tout le monde tout le temps, en fait, ça. Le public le ressent. Évidemment qu'on a besoin du public. C'est pas quand je dis on chante d'abord pour soi, c'est un état d'esprit. C'est pas se dire être égoïste envers le public, pas du tout. Mais je pense que c'est une façon d'aborder mon métier plus que un truc égocentrique. Hein. C'est parce que moi j'ai besoin d'être dans cet état d'esprit pour rentrer sur scène en me disant je vais kiffer là.
Est-ce que c'est pas aussi une question de sincérité?
Aussi. Moi j'ai toujours pensé ça et je pense que c'est j'ai besoin d'être sincère là-dessus, c'est sûr, sur cet état d'esprit, cette façon de penser mon chant, parce qu'on rentre, on est à poil, quoi.
Et est-ce que ça rend plus libre l'idée de supporter, d'être aimé ou d'être mal aimé, si on est de toute façon, comme vous le dites un peu, droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'on est au centre de ce qu'on doit faire pour soi-même. Est-ce que ça nous rend moins vulnérables aussi dans le regard du public?
Ouais. C'est une bonne question. On est tellement vulnérables déjà, même sans être chanteur. Enfin, je veux dire, il peut nous arriver n'importe quoi. Notre vie peut changer du tout au tout pour une maladie, une question perso. On traverse, on se casse une jambe et puis c'est terminé. On jardine, on se perce un œil. Enfin, j'en sais rien. Il peut arriver n'importe. On est de toute façon vulnérables sur cette planète, de plus en plus d'ailleurs. Donc, cette confiance en soi, il faut la cultiver, quoi. On est vachement plus soumis à la critique. Avec les réseaux sociaux, avec l'exposition, avec le fait de pouvoir tout dire n'importe où, n'importe qui. Si je me recroqueville à chaque fois qu'on dit « Oh, il a raté ci, oh, il a... qu'est-ce qui lui arrive à Barbérac ?» Je peux pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Et il faut vivre avec. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord se faire plaisir soi-même.
Stanislas de Barbera canta Don Ottavio dans Don Giovanni de Mozart au Metropolitan Opera de New York en 2019. Ainsi se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec le ténor français, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Rock et disponible sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.